Alors, Carl, dans les nouvelles qu'on regarde, on peut faire le bilan de la COVID chez nous.
1513 nouveaux cas au Québec aujourd'hui et 15 décès supplémentaires. Ça porte le bilan à 10 778 morts depuis le début de la pandémie. Et dans les régions qui reçoivent le plus de nouveaux cas, Capitale-Nationale 273, c'est à Montréal qu'on en a le plus avec 390. Mais
une petite montée à Montréal d'ailleurs.
Une petite montée à Montréal, oui. Et on parle beaucoup de Chaudière-Appalaches, c'est inquiétant. 191 nouveaux cas, 133 en Montérégie. Et donc, dans le bilan de décès par région, bien évidemment, Montréal, Capitale-Nationale, Montérégie, ce sont les régions où il y en a le plus.
Et d'ailleurs, on va parler plus tard dans l'émission avec le maire de Saint-Georges-de-Beauce, parce que dans Chaudière-Appalaches, il y a la Beauce, et c'est la région chaude. Au début, c'était plus Lévis, un peu dans le prolongement du Grand Québec, mais là, c'est oui, il y a encore des cas à Lévis, mais c'est vraiment en Beauce là, que c'est problématique. Et étonnamment, alors qu'ils ont une des pires situations épidémiologiques, on se pitche pas tant que ça pour les vaccins là.
Et aussi la Beauce et Québec c'est très près. Hein. Ça se fait en une heure à peu près, donc ça voyage très rapidement. La Beauce c'est inquiétant, le Québec c'est inquiétant, mais en Ontario, Mario, 4736 cas supplémentaires, c'est trois fois plus qu'au Québec aujourd'hui.
Et c'est un nouveau record.
C'est un nouveau record, c'est très préoccupant. C'est une augmentation de 14% par rapport à la veille. On a 1932 hospitalisations en cours et il y en a près du tiers de ce nombre qui sont aux soins intensifs. Et les variants omniprésents, ouais. 2811 cas de variants britanniques. Loin devant Sud-Africains et Brésiliens, qui sont à peu près une trentaine de variants. Et côté vaccination, ça ralentit un peu aussi en Ontario. 105 000 doses environ hier, un peu moins que la veille. On pense aussi avoir des problèmes avec les approvisionnements. Ça pourrait retarder la campagne. Il y a 340 000 personnes qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant en Ontario.
Mais au prorata de la population, si on avait le même nombre d'hospitalisations qu'eux, là, ça voudrait dire faudrait que le Québec double son nombre d'hospitalisations, ni plus ni moins. Là.
Ouais.
Donc, on passe de 650 à 1300, qui serait près l'équivalent de 2000 en Ontario. Donc, ça donne un peu une idée. Si ça nous arrivait, mettons, en 2-3 semaines, ça nous arrivait, notre système hospitalier serait dans un état assez assez pitoyable, assez difficile. François Legault qui a l'air convaincu que la population est d'accord. En fait, c'est le débat qui est lancé par le Parti libéral. Est-ce qu'il faut revoir ou redébattre à la Chambre, à l'Assemblée nationale de des mesures d'urgence, des pouvoirs exceptionnels au gouvernement? Lui est convaincu, pas besoin, la population est d'accord.
Assez ferme et peut-être un peu impatient, d'ailleurs, M. Legault, ce matin. Dans le point de presse,
ouais.
On le sait, l'état d'urgence sanitaire, ça peut être renouvelé de deux manières, soit par un vote du Conseil des ministres tous les 10 jours ou tous les 30 jours par l'Assemblée nationale. Bon, l'Assemblée nationale n'a pas siégé énormément durant la pandémie, on le sait, ce qui fait qu'on a...
Mais là, depuis février, elle siège régulièrement.
Ben voilà, et donc ce que dit la chef libérale Dominique Anglade, c'est donnons l'occasion à l'Assemblée nationale de voter sur cette procédure d'urgence sanitaire. Monsieur Legault qui dit, ben là, écoutez, ça va être des débats pour des débats, pas très chaud à l'idée. Mais évidemment, donc, cet état d'urgence sanitaire qui a été renouvelé 55 fois depuis le début de la pandémie par le Conseil des ministres. Il y a de plus en plus de critiques de la part des partis d'opposition justement sur la gestion de la pandémie. Et je me demandais justement, après la sortie de François Legault sur Facebook, combien de temps ça prendrait avant qu'on le voit à la caméra. Ça n'a pas été trop long, le lendemain. Mais tout de même, ça se démarquait...
Mais moi, je trouve quand même... Je comprends ce que François Legault dit. Là. C'est évident que la population réalise encore... qu'il y a urgence sanitaire, en fait, plus que jamais. Là. Mais je pense que les libéraux ne demandent pas le débat parce qu'eux voteraient qu'il n'y a plus d'urgence sanitaire. C'est davantage le principe parlementaire de dire, ben là, on vote une urgence à coup de 10 jours. Bon, une fois, deux fois, 10 jours, 20 jours, 30 jours, mais qu'au bout de plus d'un an, de revenir devant l'Assemblée nationale, d'aller chercher l'adhésion de l'ensemble des partis à la notion qu'il y a urgence sanitaire, ce serait sain. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec Mme Anglade. Je pense qu'elle a un point. Et j'ose même dire, je pense que le gouvernement aurait peut-être dû saisir l'occasion pour ramener à la fois l'adhésion populaire. Parce qu'à travers l'unanimité du Parlement, il y a un message au peuple de dire, regarde, c'est pas du niaisage, c'est pas le gouvernement qui s'amuse à vous forcer à porter un masque. Tous les partis, là, que ce soit Québec solidaire à gauche, un autre à droite, l'autre nationaliste, l'autre fédéraliste, ils reconnaissent l'urgence sanitaire. Moi, je pense que ça aurait pu être une occasion d'aller cimenter un peu l'adhésion globale des quatre partis.
Ben oui, puis en plus, imagine, il n'y a pas un parti qui voudrait être dans la chaise de celui qui dit non, il n'y a pas d'urgence sanitaire.
Non,
imaginez la réaction que ces gens-là auraient, d'un côté. Et deuxièmement, il y a eu beaucoup de réactions quand François Legault avait parlé du programme électoral de la CAQ dans une des conférences de presse là, aux côtés des professionnels de la santé. Ben, si on élève le jeu avec tous les partis, est-ce qu'on pourrait calmer ce genre de grogne-là puis s'éloigner de la démarche partisane ou à tout le moins des accusations de démarche partisane, mais bon.
Mais visiblement, ça n'aura pas lieu. Ce n'est pas l'approche que privilégie François Legault. Des vaccinateurs payés pour jouer au Sudoku. Là, on l'a effleuré tout à l'heure avec Paul Larocque. Là, il y a quand même plusieurs centres de vaccination où c'était tranquille. Moi, je connais des gens là, qui travaillent à l'accueil là, et qui étaient dans des centres hier, entre autres à Brossard, là, sur la rive sud de Montréal, où c'était pas achalandé.
Non. Il y avait quelqu'un sur Twitter qui faisait circuler toutes les plages horaires d'un centre de vaccination à Verdun aujourd'hui, à Côte-des-Neiges. C'était ouvert à la grandeur de la journée. Donc, beaucoup d'endroits.
Et hier, il y avait des photos qui ont circulé sur le web du centre de vaccination Panama à Brossard. Tu voyais un petit peu de monde ici et là, mais c'était complètement éparpillé, là.
Ouais, une nouvelle qui a été rapportée par Roxane Trudel et Nora Télamontagne du Journal de Montréal. Écoutez, des gens qui disent qu'il y avait moins de 10 patients par heure, ou même, cette citation-là est très intéressante, d'un Richard Sauvé qui s'est présenté à Côte-des-Neiges, hier, qui disait, il y avait 60 infirmières qui m'attendaient, j'en revenais pas, surtout dans la situation où on est. Imagine, tu rentres au centre de vaccination, puis c'est le comité d'accueil.
C'est un bon point, parce que c'est des infirmières. On manque d'infirmières dans les hôpitaux, parce qu'on en a dégagé, entre autres, en disant c'est prioritaire les lieux de vaccination. Mais là, tant que ça vaccine, c'est bon. Mais s'ils perdent leur temps, s'ils font du sudoku, ça marche plus, là.
Ça me semble pas très agile, mais je suis pas un expert. Mais ça me semble pas ça, l'agilité. Puis tu parlais de la Beauce tout à l'heure, Mario. Ben c'est ça, en Beauce, on avait entre 700 et 800 doses du vaccin. Puis il y en a très peu qui ont trouvé preneur hier, alors que la situation est critique là-bas. Puis on se dit aussi, est-ce qu'on ouvre? Bon, la population générale, ce sera à la fin mai, disait Christian Dubé, mais il y aura assurément un appétit pour ça. Parce que pour l'instant, il y a de la place beaucoup dans les centres de vaccination.
Parlons maintenant de qualité de l'air. Les tests de qualité de l'air, le ministre Roberge a toujours confiance aux tests qui ont été faits cette année. Dit quand même qu'il va les améliorer, mais l'année prochaine.
Faudrait pas trop se presser, je sais pas, mais bon. Qui réagissait, le ministre Roberge, à une nouvelle de Radio-Canada qui disait qu'il y avait de nombreuses irrégularités dans les tests de la qualité de l'air dans les écoles. Parfois, quand on n'avait pas la donnée favorable, on allait ouvrir quelques fenêtres et on refaisait une lecture. Le ministre Roberge, qui a tout de même mis en doute, là, il n'avait pas la même lecture du reportage, disait on pourrait même fournir des échangeurs d'air aux écoles qui en font la demande, des écoles qui n'auraient pas atteint les bonnes cibles. Puis, pour le ministre Roberge, c'est normal dans certaines écoles d'ouvrir une fenêtre, même l'hiver, par grand froid. Et c'était son expérience de professeur. Il disait que les systèmes de chauffage sont conçus pour ça dans certaines écoles. Et le ministre ne croit pas en fait que
ça commence à t'étirer pas mal.
Et le ministre
tous les systèmes de chauffage du monde sont faits que tu peux ouvrir les fenêtres, le chauffage fonctionne plus. Tout simplement, il gaspille de l'énergie.
Et rouler avec l'auto, les fenêtres baissées aussi, ça consomme plus d'essence. Ton auto est moins aérodynamique. Tu sais, on pourrait en suivre plusieurs comme ça. Mais bon, ministre Roberge, qui est pas certain que la mauvaise ventilation de certaines classes ait pu contribuer à la transmission de la COVID. Je n'ai aucune preuve allant dans ce sens-là, a-t-il dit. Mais évidemment, on le sait que la moitié à peu près là des éclosions, ça vient des écoles. Il y a un problème critique là. Ça sera l'année prochaine, semble-t-il, qu'on va changer le protocole.
Mais bon, ça demeure... cette affaire-là, on n'aura jamais réussi au Québec à la clarifier. Il y a eu une espèce d'enquête scientifique. En même temps, le gouvernement semble laisser entendre que les partis d'opposition se font ni plus ni moins que manipuler par les fabricants de... c'est les fabricants ou les vendeurs de systèmes de ventilation pour en vendre à tout prix là. Mais moi j'ai l'impression que les parents sont demeurés avec une inquiétude tout au long de la pandémie dans les classes là.
Et hier on annonçait qu'en Ontario il y a plus de 600 millions de dollars qui seront mis dans les qui vont être injectés dans les écoles justement pour améliorer la qualité de l'air. Et quand on regarde ça, on peut pas faire abstraction de ce qu'on vit au Québec, puis peut-être que ça prendrait pas 600 millions, mais où est l'argent, où est la motivation, où est le désir d'améliorer la ventilation? On le sent pas beaucoup pour l'instant.
Les régions chaudes, en fait, les zones où on a fermé complètement les écoles, on pourrait rouvrir les écoles, en fait, faire recommencer l'école aux élèves en deux temps.
Le primaire, d'abord, a avancé François Legault. Pourquoi? Parce que l'éducation à distance, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants au primaire, on le sait. Puis moi, je lève mon chapeau à tous les parents qui ont dû vivre ça, l'éducation à distance, parce qu'imaginez trois enfants avec la même connexion Internet et deux ordinateurs, ça doit être l'enfer.
Et la concentration, tu sais, à 6-7 ans, là, à distance, là. À cet âge-là, ben, même pour certains adultes, tout est une distraction, mais à cet âge-là, le chat, un bruit, quelque chose dehors, tout est une distraction là.
Et on parlait des hommes, le député qui est apparu nu. J'ai un de mes amis, moi, qui avait un enfant en secondaire. Et qu'est-ce qui se passe quand le professeur ne maîtrise pas bien Zoom? Ben les élèves entre eux vont fermer le micro d'un tel, fermer le micro de l'autre. Donc
parce qu'il n'a pas fermé la capacité d'administrateur de chaque élève.
Ça ne t'étonnera pas de savoir que certains jeunes sont plus alertes que les adultes avec la technologie. Mais bref, avec tous les défis que ça comporte, ben là, dans les régions de Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais, ce seront donc les élèves du primaire qui devraient revenir en classe le plus vite possible, mais bon, on n'a pas de date encore.
Et une petite vite liée à la pandémie mais qui va, bon, peut-être soulager certaines personnes. On a un mois de plus pour faire ses impôts.
Et ça va faire du bien. Moi, j'aime pas la période des impôts. Je les paie, mes impôts, mais chaque année, je pète un peu ça par en avant. Ben, je les avais envoyés,
c'est
heureusement.
C'est d'habitude, tout le monde aime ça, les
ben
impôts.
Ben oui, c'est ça. Non, mais là, je me dis tout le temps, quel papier je vais avoir? Il va me manquer quelque chose. Puis bon, mais bref. Il me reste un mois, c'est fait, mais il te reste un mois à toi aussi, Mario, c'est au provincial.
Quoi, moi, j'ai une tendance, je peux avoir une tendance à me perdre ou à perdre des papiers. Et là, j'ai dans mon bureau depuis, mettons, 10 ans, une chemise qui s'appelle « Impôts année en cours ». Donc, tout ce qui rentre à la poste, là, non, mais tout ce qui rentre à la poste qui est relié directement à un reçu pour un don de charité, un T45, n'importe quoi, c'est interdit à tout membre de la famille de le laisser traîner, de le mettre sur un bureau intermédiaire. Dans la chemise.
T'as fait ça il y a 10 ans.
Non, mais là, je le sors à chaque année.
Non, je veux dire, ça fait 10 ans que tu fais ça. Oui. Donc, si moi, je l'ai pas fait encore, il y a de l'espoir, je vais finir par comprendre comment faire.
Mais c'est plus de trouble, c'est pratique. Parce que quand t'arrives le jour des impôts, le comptable t'appelle n'importe quoi, si t'as pas à regrouper des papiers. Dans cette chemise-là, c'est tout mal à l'ordre, l'enveloppe est à moitié déchirée, les papiers sont pas triés, mais...
C'est là.
Tout est dans la même chemise.
Vous l'aurez entendu à Cube Radio.
Au même endroit. On s'arrête.